La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 155e numéro de la mêlée de l'info. Aujourd'hui, comme d'habitude, trois invités pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue tout d'abord Marie-Christine Monnoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités. Et je salue aussi Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du PS31, membre du Conseil national du Parti socialiste, et Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole, producteur de l'émission À bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue également à tous les trois et merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble autour d'un premier sujet qui nous est fourni une fois de plus par Emmanuel Macron. Après le débat télévisé entre Jordan Bardella et Gabriel Attal la semaine passée, le président de la République a renouvelé le week-end dernier sa proposition à Marine Le Pen de débattre avec elle avant les élections européennes du 9 juin, une offre déclinée par la présidente du Rassemblement national, sauf si le chef de l'État s'engageait à démissionner ou à dissoudre l'Assemblée nationale, dans le cas qui paraît bien improbable aujourd'hui, où la liste Renaissance n'arriverait pas en tête du scrutin, qui paraît plutôt probable d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la proposition d'Emmanuel Macron de débat entre un président en exercice et sa principale opposante est inédite dans un contexte de campagne européenne. Ni l'un ni l'autre, bien sûr, ne sont candidats. Est-ce qu'il vous paraît cependant légitime? Et pensez-vous qu'un tel débat pourrait avoir du sens, même s'il est très peu probable en effet qu'il ait lieu? Marie-Christine Monnoyer.
Je trouve que c'est presque une question amusante, parce qu'effectivement, d'abord, ce débat n'aura très certainement pas lieu, parce que Madame Le Pen a posé un challenge tel que ce n'est pas possible, mais surtout parce qu'au fond, ce qui nous intéresserait, c'est de comprendre pourquoi le président Macron a suggéré ce débat. La question que je pense qu'il a derrière la tête, c'est de vouloir parler d'Europe. Et comme il considère qu'en fait, on ne parle pas suffisamment d'Europe dans ces élections, il a eu cette envie un peu saugrenue de vouloir quand même parler d'Europe. Et donc, puisque ça ne peut pas être un candidat, on imagine mal un seul candidat, eh bien, d'interpeller Madame Le Pen, dont on sait que les attirances et l'intérêt pour l'organisation européenne est complètement secondaire. Donc, il veut parler d'Europe. Était-ce la bonne solution pour parler d'Europe? Je trouve que cette question-là, il n'y a pas de vraie réponse.
En tout cas, vous avez bien utilisé l'adjectif saugrenu tout de même.
Oui,
c'est ce que je remarque. Bruno Cyr, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen?
Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron est un agité de la communication et que bien souvent, il se jette dans la mêlée en pensant qu'il va tout écraser sur son passage, qu'il va forcément convaincre tout le monde, sans l'impression que ça donne, sans trop réfléchir. En tout cas, dans ce cas précis, visiblement, je ne sais pas s'il avait réfléchi à ce qui allait se passer, mais ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de débat, parce que Mme Le Pen n'a pas dit non, mais elle a posé de telles conditions que, évidemment, Macron ne va pas mettre sa démission dans la balance, donc ça s'arrêtera là. Et puis en plus, le sujet, comme ça vient d'être dit par Mme Manoyer, est absolument hors sujet. S'il veut parler de l'Europe, eh bien, qu'il mandate les candidats de son parti politique pour le faire. Mais un président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui va, dans des élections comme ça, complètement interférer dans le débat, etc. Je trouve qu'il était arrivé au pouvoir lors de son premier mandat en disant « je vais restaurer la fonction présidentielle, je vais prendre du recul ».
De la hauteur.
En fait, c'est tout le contraire qui se passe. Il est en permanence au four et au moulin en train d'essayer de court-circuiter plus ou moins ses ministres ou les représentants de son propre parti, ce qui est le cas là. Et je trouve ça dommage, dramatique, parce qu'au fond, Tout ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et encore une fois, ça occulte les vrais débats. Il y a un vrai débat sur l'Europe. Il y a 30% des gens, d'après les sondages, plus de 30%, ça navigue entre 30 et 35% des gens qui souhaitent voter un parti qui s'appelle le Rassemblement National, qui nous dit qu'on est allé trop loin dans l'Europe, qu'il faut penser à plus de protectionnisme, penser à mieux contrôler l'immigration, etc. Ce sont des vrais sujets. C'est ces sujets-là qu'il doit traiter depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on attend maintenant, à 15 jours des élections, pour dire, vous allez voir, je vais vous expliquer dans un face-à-face que Mme Le Pen se trompe de A à Z? C'est raté. Ce qu'il fait là, ça renforce, je pense, l'aura de Mme Le Pen au lieu d'autre chose. Donc moi, je comprends rien à cette agitation. Je trouve que c'est pas comme ça que devrait être un président de la République, de mon point de vue.
Alors Mathieu Sauze, vous, quand vous entendez propositions saugrenues, quand vous entendez Emmanuel Macron agiter de la communication, vous vous retrouvez dans ces expressions et peut-être un peu presque des noms d'oiseaux?
Alors d'abord, ça rentre en, cette idée de débat en fait, elle émerge suite au premier débat qui avait lieu, qui était un petit peu scandaleux d'ailleurs, puisque France Télévisions, en l'occurrence donc le service public, avait mis... D'ailleurs, c'est incompréhensible, hein, mais organiser un débat sur le cadre des européennes entre Jordan Bardella, qui est, lui, pour le coup,
tête de liste
du Rassemblement national, par exemple. J'allais dire Front National. Les habitudes.
Tropisme du passé. Du PS.
Voilà, c'est ça. Ou du passé. Mais en tout cas, du Rassemblement national. Et face à lui, il y avait déjà le Premier ministre, qui était donc descendu à l'échelle de la mêlée, qui avait complètement. Qui s'était sorti gargarisé de ce débat en disant j'ai gagné. Au final, il y a 3 points de plus pour Bardella dans les sondages.
Oui, c'est sûr que ça n'a pas enrayé.
Au même moment, pourquoi? Pourquoi il y a 3 points de plus? Ben d'abord, parce que moi, je pense que la Macronie est totalement en panique. Il y a panique à bord. Et quand il y a panique à bord, il y a eu, à mon avis, une erreur de casting dans le choix de la candidate, Valérie Ayer, qui est partie assez haut dans les sondages, mais qui dévisse peu à peu. Et là, ce soir, le sondage qui vient de... Ce sera un scoop pour Radio Présence qui va sortir dans l'heure qui vient. L'annonce à 15 et Glucksmann à 14. Donc, grosso modo, l'écart est dans la marge d'erreur et l'écart est en train...
De s'amenuiser en plus. La tendance...
De devenir... En tout cas, le croisement des courbes pourrait avoir lieu avant le 9 au niveau sondage. Donc ils sont totalement en panique. Ils se sont, à mon avis, trompés donc, dans ce casting de candidates. Et alors, le soldat Attal s'est mis en mouvement. Il a fait une erreur, à mon avis, grotesque, parce que ça a requalifié, du coup, et ça a mis comme opposant principal l'extrême droite. Et si ce n'est pas une erreur, c'est parce qu'il rejoue avec le feu en pensant, alors qu'on est dans une élection à un tour, qu'on est dans un même contexte d'une élection à deux tours à présidentielle qui qualifierait un duel entre Macron-Le Pen. Et j'ai trouvé sain la colère de Benami,
François-Xavier Bellamy.
Bellamy ce soir-là, pardon, qui a donné les arguments, en tout cas, que je partage pour le coup, qui était celui de on essaye de nous rejouer le match de la communication entre RN d'un côté et Renaissance de l'autre. Bon, il se trouve que c'est une élection qui a un seul tour, donc ça c'est grossier. Ensuite, Macron, pardon, mais c'est quand même le président. Et quand on est président de la République, de la Ve République, on se doit d'avoir le recul nécessaire sur l'événement et on ne va pas combattre face à ce qui est autoproclamé chef du premier parti de son opposition. Il n'y a pas ça, surtout dans le cadre des européennes. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement incroyable, qui se résume, je pense encore une fois, à ce côté panique. Et quand il y a panique, eh ben, ça s'agite. Et le capitaine du navire qui est en train de foncer droit dans le mur essaye de prendre la barre, mais c'est un tort. C'est un tort. Après, par contre, ce que je crois, c'est qu'à force d'agir comme ça, avec autant d'erreurs, ben, malheureusement, à force de jouer avec le feu, ben, parfois le feu s'accélère et brûle fortement. Et j'ai bien peur qu'il est en train de créer toutes les conditions pour amener l'extrême droite en tête en 2027, voire pas loin de gagner la présidentielle. Donc c'est ce qui me fait peur en tant que républicain, en tant que démocrate et républicain, parce que quand même l'extrême droite, c'est pas tout à fait pareil qu'un parti classique républicain. Et j'ai un peu les mêmes inquiétudes pour le coup donc, que Bellamy sur ces affaires-là. Je trouve que c'est inopportun, que c'est discours 3 à l'écart de sa candidate, et que en plus, c'est pas le moment. Et il y avait tellement de sujets à amener sur l'Europe, il y a tellement de débats qui, somme toute, sont assez difficiles entre les différents candidats, mais qui amènent quand même pas mal de choses et d'arguments divers et variés. Et il y a quand même autre chose à faire que cette chose, ce duel duo annoncé partout et qui au final s'avère être, en tout cas de l'objet politique recherché, non abouti, ou en tout cas pas forcément, j'allais dire, oui, si l'objet recherché était de requalifier RN dans cette élection, c'est un échec total.
Bon, pour vous, c'est à la fois erreur stratégique, erreur de communication.
C'est une erreur stratégique, une erreur de communication, une erreur de. C'est vraiment l'erreur qui est amenée par un état de panique, à mon avis, dans la Macronie.
Alors, Marie-Christine Monnoyer, tout de même, il y a une chose qu'a rappelé d'ailleurs Mathieu Sauce. Il y a déjà eu le débat, donc Gabriel Attal, qui lui n'est pas candidat, va débattre avec Jordan Bardella. Emmanuel Macron propose à son tour de débattre avec Marine Le Pen, qui n'est même pas candidate du tout, contrairement à Jordan Bardella. Et là-dedans, Valérie Ayé, la tête de liste, qu'est-ce qu'elle devient? Il veut vraiment finir de la discréditer complètement, parce qu'on a un peu l'impression que le seul résultat que va avoir sa proposition, c'est ça.
C'est une très bonne question. En fait... Moi, ce qui me fait toujours mal, c'est quand un N plus 1 ne donne pas ses chances au N qu'il a choisi, en se disant qu'elle ne va pas y arriver, elle est moins bonne que moi, et je fais exprès de dire « elle ». Je ne peux pas m'empêcher de sortir ma carte féministe.
Oui, mais c'est pour ça que vous posez la question.
C'est trop fréquent, ce truc-là. Et... Bien sûr que Emmanuel Macron a une capacité d'éloquence, a une capacité de répartie, etc. Mais ce jour-là, finalement, il aurait été sans doute moins bon qu'elle. Et c'est vraiment regrettable. Donc c'est regrettable, on vient de le dire, sur le plan stratégique, sur le plan politique. Et quand on se veut souvent le porte-parole de l'équilibre homme-femme, c'est un point très négatif.
Bruno Cyr.
Oui, je rajouterais qu'on pourrait dire exactement la même chose du côté de Mélenchon.
Ah oui,
Mélenchon n'est pas candidat, c'est lui qui occupe le terrain, et lui aussi, sa candidate place au second plan. Pire même, il met en scène la numéro 7 de la liste.
Il y a juste un truc à corriger, c'est que Mélenchon est candidat. C'est le dernier de la liste de la France Insoumise.
Non,
mais il y a une subtilité quand même politique derrière qui a été faite exprès pour pousser la liste.
Je veux bien, mais enfin, on ne voit, on entend que Mélenchon, et c'est lui qui a choisi.
Je pense en l'occurrence qu'il y a quand même une grande différence, en tout cas moi j'y accorde une grande différence, entre un patron de parti et... Pour moi, des gens qui sont à la tête de notre pays et qui sont à la tête d'une institution de la Ve République.
Non, mais je parlais sur le plan du mépris vis-à-vis de la candidate officielle et du mépris vis-à-vis de la... Il se trouve que c'est une candidate. Alors, je ne partage peut-être pas la vision, parce que je pense que ce serait un homme, il aurait fait pareil. Mais il y a une forme de mépris pour le candidat officiel.
D'ailleurs, j'ai commencé en disant le N plus 1 par rapport au N.
Oui.
Quand on a quelqu'un qui est juste sous votre responsabilité et qu'on ne le laisse pas aller au charbon, on se demande à ce moment-là pourquoi on l'a choisi.
Eh oui.
Et donc,
c'est du mépris.
Ça ne peut pas être analysé autrement que par du mépris.
Je trouve ça d'autant plus dommage que Manon Aubry ne me semble pas mauvaise comme candidate, qu'il aurait plutôt eu intérêt à la laisser parler.
Manon Aubry, permettez-moi de corriger. Moi, j'ai eu pendant presque toute ma vie professionnelle en face de moi des militants et des militantes de l'UNEF qui étaient souvent les plus redoutables. Alors Manon Aubry, pour moi, c'est le robot type de la militante UNEF. Elle ne coupe systématiquement la parole, elle ne laisse jamais finir, elle pose toujours des questions qui sont à contresens de tout, et elle est d'une mauvaise foi terrible. Donc moi, je trouve que c'est une très mauvaise candidate, elle ne traite aucun sujet sur le fond.
Je ne suis pas certain qu'ils arrivent
mieux à la France. Elle est agressive comme un roquet de l'UNEF.
Je ne crois pas que le débat soit rentré dans les candidats, parce qu'autrement, c'est une autre forme de débat.
Oui,
et on pourrait...
Alors,
On pourrait parler de nombreux débats, notamment sur la qualité, pour le coup, des députés européens sortants tête de liste. Je pense à Jordan Bardella et son taux de participation à la vie de l'institution Europe, qui a été longuement souligné, mais 21 amendements déposés en 5 ans, c'est un véritable cancre pour moi. Et donc, on pourrait rentrer dans des débats qui ne sont pas, en tout cas, le débat du jour.
Alors, je vais revenir à aussi un point que vous avez souligné en parlant de François-Xavier Bellamy, la réaction de François-Xavier Bellamy après la proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen, et aussi votre candidat, votre tête de liste, Raphaël Glucksmann, Mathieu Sauce, qui lui a parlé carrément de scandale démocratique, et beaucoup, notamment à gauche, disent que Emmanuel Macron joue un jeu dangereux en proposant ce débat à la seule Marine Le Pen et en excluant d'office les autres parties de la discussion. Est-ce que vous jugez que légitimer le RN et sa présidente, en l'occurrence, comme seul opposant au pouvoir actuel, est effectivement dangereux pour la démocratie?
Marie-Christine Monnoyer. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, mais je pense qu'on l'a déjà dit il y a quelques minutes. En fait, tous ceux qui sont autour de cette table sont angoissés par les futures élections présidentielles. Et donc, mettre en valeur que ce soit M. Bardella ou que ce soit Mme Le Pen, pose un vrai problème de respect de la démocratie. Surtout quand on est à une date aussi lointaine encore des élections. On aurait dû laisser le temps jouer dans cette question-là. Donc je trouve que c'est vraiment une très très mauvaise idée.
Oui, c'est tout à fait une mauvaise idée parce que en fait, on a le sentiment qu'il veut rejouer le match qu'il a gagné contre Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Or, il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Raison de plus pour mettre en selle des gens qui, éventuellement, seraient candidats de son côté, enfin du côté de son parti. Et là, il accapare la parole. Et finalement, il accapare la parole contre celle qui ne cache pas qu'elle se présentera, effectivement, en 2027 à l'élection présidentielle. Mais ce n'est plus à lui à jouer le rôle d'opposant dans cette histoire d'élection présidentielle. Il ne sera pas candidat. Donc moi, je trouve que vraiment, il a tout faux sur toute la ligne.
Non, je partage pleinement, parce qu'il y a quelque chose qui stratégiquement au niveau politique, alors c'est aussi inédit qu'un président en place en tout cas ne pourra pas se représenter constitutionnellement, c'est pas arrivé avec les autres, bon il n'y a pas eu deux mandats consécutifs et on arrivait à cette impossibilité là constitutionnelle, donc en réalité il est en train de mettre en selle, d'être une sorte de marchepied à la candidate du RN, au détriment, pour moi, de son propre parti, ou au tout moins même de ses alliés. Parce que regardons plus attentivement les réactions, notamment d'Édouard Philippe. Il a bien dit, mais c'est complètement fou. Vous allez mettre en valeur votre adversaire potentiel, en tout cas très bien placé dans les sondages pour 2027 pour la présidentielle, alors que vous-même, vous n'êtes pas candidat, c'est mettre à mal ses possibilités derrière de remporter quelque chose. Et puis par ailleurs, et c'est pour ça aussi la colère de Bellamy, et puis la colère aussi de notre parti, il y a des reconstitutions qui peuvent se faire. Macron a fait exploser totalement le bloc de gauche-droite et le bicéphalisme qui existait sous la Ve République. Il a créé une sorte d'ersatz d'opposition, et lui il considère que d'un côté il y a le camp des républicains face à le camp grosso modo des extrémistes et de l'extrême droite, et il renvoie tout le monde à dos à dos, mais le clivage le plus sain c'est encore le clivage gauche-droite dans ce pays, qui permet d'avoir des républicains de droite et des républicains de gauche qui ont certes des ambitions politiques différentes, des idées politiques différentes, mais qui peuvent s'entendre sur l'idée même de la constitution de la République. Or, à faire monter l'extrémisme comme il fait, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs, il y a quelque chose qui met à mal nos institutions.
Mais ça, c'est le rêve. des centristes, ça a toujours été depuis Giscard et tant d'autres, en se disant, en passant par Bayrou et compagnie, qui est grand copain de Macron d'ailleurs, c'est pas par hasard, on va se mettre au centre de l'échiquier, on va prendre à gauche et à droite tout ce qui est raisonnable et tout ce qui est parti de gouvernement, et puis comme ça on va s'installer au pouvoir, on y restera indéfiniment. Mais ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution dans une démocratie fondée sur le principe d'alternance. Et donc évidemment en faisant ça, ben, la seule alternance possible, ça devient soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. On est exactement dans ce schéma. C'est écrit depuis le début. Depuis le début, j'ai toujours dit, moi, que je trouvais l'idée d'un parti centriste être une aberration. C'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Il faut une alternance. Ça va fonctionner un certain temps, mais là, maintenant, c'est parti en quenouille à cause de ça. Et on ne voit pas comment elle va jouer, cette alternance. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, aux prochaines présidentielles, quelqu'un d'extrême-gauche, alors heureusement, Mélenchon s'est tellement radicalisé que je pense que quand même, il aura du mal à remonter la pente. Mais on pourrait avoir quelqu'un d'extrême-gauche en face de quelqu'un d'extrême-droite. Mais c'est ça notre pays aujourd'hui. Où on va?
Voilà. Marie-Cassine Monnoyer,
oui,
là,
en plus, je trouve
ce
que
sujet.
Cet échec de discussion discrédite la nécessité de véritables débats entre les personnes. On a profondément besoin que soit les hommes politiques, soit les personnes acceptent de débattre. À partir du moment où on pousse les extrêmes en jeu, il n'y a plus de débat. Et moi, je le ressens beaucoup au niveau de l'université. Nous avons beaucoup de mal à faire débattre nos étudiants. Ils montent tout de suite en live et il n'y a plus de débat. Et les questions, c'est tout juste si on n'en vient pas aux mains. On ne se laisse pas la parole. Or, il faut que les hommes politiques, et en particulier les présidents de la République, montrent que la République, elle a besoin de débats. Elle a besoin d'échanges, parce que c'est à cette occasion-là qu'on modifie sa position. On est capable de comprendre pourquoi il faut faire évoluer tel ou tel point. Et moi, j'ai très peur pour cela dans la jeune génération, même si, en même temps, je regrette qu'il y ait aussi peu de jeunes qui aient décidé d'aller voter.
Oui, alors ça, c'est effectivement un autre sujet. En tout cas, Mathieu Sauce, comme le disait Marie-Christine Monnoyer, on a l'impression que la campagne de 2027 a déjà commencé. Nous sommes à mi-2024, à peine, et qu'on veut nous présenter cette future présidentielle comme un match qui se réduit à une opposition entre le Rassemblement national et un candidat qui sera Marine Le Pen, Jordan Bardella, on verra, et puis le candidat qui sortira d'un camp centriste, macroniste, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Vous avez l'impression qu'on ne va pas pouvoir y échapper à ça ou qu'on peut encore un petit peu inverser les choses?
Mais comme on vit en fait que des périodes inédites, que ce soit au niveau de la communication ou de la vie politique, on ne peut pas d'abord savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que qui nous dit que le président, tout compte fait, suite aux résultats des européennes, ne va pas dissoudre? Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. La logique et la rationalité voudraient que non. Mais rien n'est écrit parce que Emmanuel Macron a cette qualité ou ce défaut, c'est de surprendre totalement et de créer des situations inédites, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et il les fait éclater à grand jour. Je ne comprends toujours pas le cap donné par le mandat, le cap donné depuis son élection.
Depuis 2022.
Je n'arrive pas à le saisir. Il n'y a plus de barre à gauche pour moi, donc c'est plus à droite, mais pour autant on n'arrive pas à saisir, puisqu'on, dès la première année de mandat, on était déjà en train de calculer pour 2027 comment ça allait se passer, comment allait se recomposer, parce qu'il était déjà en campagne pour 2027. Alors c'est très paradoxal, il est en campagne mais on ne sait pas toujours pour qui et par qui. Il a déjà reconstitué son gouvernement. On pouvait imaginer que c'était pour Attal, mais tout compte fait, c'est pas forcément pour Attal, parce que je pense que pour le coup, Gabriel Attal est en train de se cramer complètement, et son petit côté qui a plu, hein, en tout début de son arrivée comme Premier ministre, son petit côté frais, comme diraient les jeunes, est en train de Enfin, ça va aussi vite que ses cheveux blancs. Donc, et il en prend.
Oui, c'est pas gentil ce que vous dites.
Non, mais il en prend beaucoup. Donc, il y a quelques côtés où il a l'air de cramer Gabriel Attal. D'un autre côté, tous ses alliés politiques, que ce soit du Bayrou ou Édouard Philippe, s'interrogent sur ce qui se passe là pour ces européennes-là. On ne sait pas où on va. En tout cas, moi, c'est mon côté d'analyste politique qui ne me permet pas de définir ne serait-ce que les 6 prochains mois. Par ailleurs, on entend parler, éveillons notre regard là-dessus, notre curiosité là-dessus. On entend parler de la réforme Woerth qui viendrait donc à être une réforme territoriale qui structurerait le pays de façon bien différente avec la recréation du conseiller territorial, etc. Mais qui bouleverserait complètement les champs politiques aussi, que ce soit au niveau local, au niveau national. Donc là, on est dans des... J'allais dire qu'on arrive à un moment inédit de bouleversement et on ne méprise pas encore ce que sera les 6 prochains mois. Et malgré tout, il y a quand même un pays qui va mal. Et ça, on en parlera sur le deuxième volet, puisqu'on va parler des crèches sans trahir la suite du programme. Mais on a un pays quand même qui va mal avec une population qui souffre et des gens avec une violence qui n'a jamais été aussi exacerbée. On a les JO qui arrivent, on ne sait même pas s'ils seront gages de sérénité, de festivité ou malheureusement d'insécurité.
La CGT pour foutre la...
Qu'on pourrait mieux préparer et éviter justement ces manifestations et ces troubles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, puisqu'il n'y a plus, pour moi, de capitaine sur le navire France.
Et puis, il n'y a pas d'axe directionnel bien clairement établi.
Il n'y a plus de cap.
Vous, Marie-Christine Monnoyer, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce match retour, si on peut dire, entre le Rassemblement national et le camp macroniste pour 2027, on va pouvoir en sortir ou est-ce que, on est parti pour ça et on n'en sortira plus?
Écoutez, moi j'espère qu'on va en sortir.
Mais est-ce que vous voyez des signes?
Je trouve que ce qui vient d'être expliqué là me paraît juste. C'est un petit peu... La peur est mauvaise conseillère. Et donc, visiblement, il y a des angoisses au niveau Macron, enfin au niveau de la Macronie, et il n'y a pas de... C'est drôle que quelqu'un qui ne peut se représenter ne prépare pas son successeur. C'est quand même la base de la responsabilité d'un poste de travail que de dire qui va me succéder et de ne pas brûler les ailes des uns et des autres.
On aurait pu penser que c'était le cas avec Gabriel Attal.
On aurait pu penser que, sauf que c'était quand même une très jeune personne avec une expérience quand même un petit peu limité à une période extrêmement difficile. Donc, est-ce que la meilleure période est de vous mettre au charbon en direct live pendant...
Vous êtes d'accord avec Mathieu Sauss,
oui,
il est en train de...
Mais vous voyez, je me place au niveau de...
Griller,
on est responsable, on est le grand chef, on doit préparer sa succession.
C'est vrai que ça ressemble à après moi le déluge.
Oui, j'allais employer l'expression, je n'ai pas osé. Mais
voilà, mais c'est dur, quoi.
Bruno Cyr.
Oui, moi je rêve d'une reconstitution autour du Parti Socialiste et du LR, d'une bipolarité française.
Un bipartisme comme ça a été longtemps le cas, et la cinquième est faite pour ça.
Qui a de fait disparu. Et aujourd'hui, on voit l'angoisse que ça crée. Et cette angoisse peut être effectivement porteuse de bien des dangers. Parce que si demain l'extrême-gauche arrive au pouvoir, vous savez, quand je vois les gens qu'admire Mélenchon, eh bien, moi, franchement, j'ai très, très peur. J'ai très, très peur de ce qui peut arriver en France. Hein. Donc, ce parti n'est pas un parti partisan ni des notions républicaines de liberté, de fraternité. Non, ils n'ont absolument pas ça présent dans leur logiciel. Au contraire, ils sont pour des interdits, pour un pouvoir fort et une sorte de dictature de gauche. Bon, donc moi, ça m'angoisse beaucoup. Et je pense que l'extrême droite...
C'est pareil.
C'est un peu pareil. Dans leur logiciel, ils ont un peu les mêmes choses qui sont écrites. Alors, Marine Le Pen a beaucoup changé. Je pense que sinon, elle ne ferait pas 30% d'intention de vote. Mais soyons prudents. Et moi, je trouve qu'on a besoin que la droite se reconstitue autour de LR et que la gauche se reconstitue autour du PS. Quand je pense que le PS est allé pour quelques plats de lentilles, comme on dit, ou pour quelques postes à l'Assemblée nationale,
se vendre
à LFI, ben oui, mais c'est dramatique.
On en a déjà parlé.
C'est dramatique, et j'espère que le PS va tirer les conséquences de toute cette séquence où on voit LFI se radicaliser de plus en plus, et devenir un parti antisémite, qui plus est. J'espère que le PS va dire, bon, stop, ça suffit le jeu.
J'ai lu récemment quelque chose qui va tout à fait dans votre sens, mais qui accentue encore les plus jeunes qui vont aller voter n'ont jamais connu de monde avec une dictature. Ouais. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils n'ont pas encore suffisamment voyagé pour se rendre compte de ce que c'est que de vivre dans une dictature ou de vivre dans un régime qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Voilà. L'Argentine, par exemple, ou le Brésil, qui détruisent en quelques mois la vie quotidienne des habitants. Et ça, c'est absolument terrifiant.
Mathieu Sauce, pour conclure.
J'ai essayé de ne pas couper la parole parce qu'il y a tellement de débats qui sont relancés.
On est là pour ça.
Oui, non, bien entendu. Moi, je ne regrette pas la période NUPES, hein. Je ne suis pas en train de regretter la période NUPES. Ce que je dis, c'est que dans la période NUPES, il y a eu un deuxième acte où nous, socialistes, on s'est vite rendu compte que Mélenchon déraillait. Et donc, ce n'est pas nous qui avons quitté ce programme de la NUPES, hein, que je vous invite à lire. C'est plutôt Mélenchon qui, lui, s'est auto... mais on pourra en débattre dans un autre... Il a quitté, en tout cas, le sens même de cette éthique de la NUPES. Moi, oui, bien sûr, par contre, là où je partage, c'est que je rêve de cette recomposition entre gauche et droite, entre une gauche qui souhaite gouverner, une droite qui souhaite aussi gouverner, et une alternance potentielle dans ce pays. Et puis, à l'intérieur, pour le coup, du camp de la gauche, que j'espère, je pense qu'on est en capacité, après les européennes, à reconstruire, et en tout cas, ça sera notre tâche, pour éviter justement ce duel entre l'extrême droite et Macron, parce que je rassure...
Ou l'extrême gauche.
Je rassure a priori Monsieur Cyr, mais je ne les vois pas, pour le coup, une extrême gauche monter dans le pays. Par contre, ce que je constate aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, c'est qu'il y a une vraie montée de l'extrême droite et qui n'est pas que simplement française. Elle est européenne, cette montée d'extrême droite. Et il faut voir, et c'est la première fois que ça arrive sous la Ve République, preuve qu'on est vraiment dans une période inédite qui perdure, c'est que l'extrême droite a défilé dans les rues de Paris en rang avec des choses qui étaient interdites, des factions interdites un dimanche à Paris. C'est passé peut-être inaperçu.
Ils étaient 500, ils auraient été 5000, ça aurait fait plus de bruit.
Ils étaient quand même en nombre. Et par ailleurs, je vous rappelle que c'est la première fois sur une élection européenne que les extrêmes droites de toute l'Europe se réunissent en l'occurrence en Espagne, et que Marine Le Pen prenne la parole dans ce moment-là avec pour le coup un revival du passé qui montre qu'elle n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'elle nous fait croire. Mais bon, c'est non, un autre débat.
Je vous entends, mais en même temps, s'il y a cette montée des courants d'une droite plus radicale, c'est parce que les problèmes européens ne sont pas traités correctement du point de vue d'à peu près 30% de la population européenne. Donc on ne peut pas dire que c'est 30% de la population européenne. Ce sont des méchants gens, il faut les ignorer, il faut pas tenir compte. Non, je trouve que notre démocratie ne répond pas aux attentes d'une partie importante de la population. Et c'est dommage que le débat ne permette pas.
La cause et les conséquences, toujours, les gens ne sont souvent pas d'accord là-dessus.
Oui, sauf que la plupart du temps, tous ceux qui sont élus, enfin les membres du parti de RN, disent des choses qu'ils ne votent pas ou votent des choses qu'ils ne disent pas. Et donc il y a une
usurpation.
Une usurpation très nette, en particulier au niveau européen. Et quand on s'amuse à dire c'est l'Europe qui fait ci, c'est l'Europe qui fait ça, alors que c'est pas vrai.
Mais c'est terrifiant. Si vous me permettez, juste pour citer un exemple très concret et très local, regardez au niveau de la PAX, les agriculteurs se sont réunis ici, ça a démarré en Haute-Garonne, on luttait contre la PAX et contre les méfaits et les conséquences de la PAX. L'extrême droite en Haute-Garonne s'est précipitée auprès des agriculteurs, forcé de constater qu'au niveau européen, Jordan Bardella a voté la PAX qui localement, où il protestait localement, et bien quand il est au Parlement, il vote la PAX. Donc c'est des usurpateurs, il faudra dénoncer ça, et je pense que je suis d'accord avec vous qu'il faudra traiter les questions, faudra y proposer des solutions. C'est peut-être pas les mêmes en fonction de la gauche et de la droite, mais ça fait partie de l'alternance, ça fait partie des solutions à proposer, mais en tout cas on ne peut pas laisser la population dans un tel désarroi, parce que là c'est le terreau de les extrêmes et il va falloir travailler. Et on a jusqu'en 2027 pour trouver des solutions à éviter ce duel, un qui nourrit l'autre en réalité, et trouver d'autres perspectives et d'autres solutions pour la France.
Bon, alors concernant le débat Macron-Le Pen, comme on l'a dit au début et même tout au long de notre discussion, il y a très peu de chances qu'il ait lieu, on le sait. Mais bon, le fait qu'Emmanuel Macron insiste auprès de Marine Le Pen est tout de même significatif. Ça méritait que nous en débattions. Petite pause musicale avant notre deuxième débat dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct, toujours en compagnie de Marie-Christine Monnoyer, Mathieu Sauss et Bruno Cyr. Nous allons revenir maintenant sur les conclusions d'un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la situation des crèches en France. Il a été adopté lundi après le vote de ses membres et il dénonce un système à bout de souffle. Ce sont les mots de la rapporteure du projet, la députée Renaissance Sarah Tanzilli, qui a évoqué, je la cite encore, une complexité kafkaïenne, un sous-financement chronique, une insatisfaction des usagers et du personnel et une multiplication des dérogations. Elle a d'autre part indiqué que les travaux ont démontré que les défaillances identifiées n'étaient pas, selon elle, la conséquence de l'ouverture du secteur des crèches au secteur privé ou de l'influence des fonds d'investissement. Et toujours selon la députée, c'est le modèle économique et les règles de fonctionnement des crèches qui ont contribué à établir un cercle vicieux de la défaillance. La France Insoumise, qui était à l'origine de cette commission d'enquête, a présenté un contre-rapport et a accusé Sarah Tanzilli de ménager le secteur privé lucratif dans ses conclusions. Après avoir pris connaissance des arguments des uns et des autres, est-ce que vous considérez aussi que le système des crèches est largement défaillant en France? Et si oui, quelles en seraient les causes d'après vous? Je vais redonner la parole à Marie-Christine Monnoyer parce que je sais que le sujet vous tient beaucoup à cœur.
Alors, si vous voulez, ce que je trouve, la question est bien posée. Le système actuel est défaillant et ce qui nous importe, c'est de trouver les causes profondes de cette défaillance. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Ce que j'ai trouvé de très intéressant, j'ai relu le rapport de l'IGAS de 2023. Il dit à peu près la même chose que ce que dit le rapport actuel que vous avez évoqué. Il dit qu'il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas suffisamment d'équipement, etc., etc. Ce qui me paraît important, c'est d'abord de se souvenir qu'aujourd'hui, 80% des femmes qui ont deux enfants travaillent. Et donc, il y a un problème. Qui s'occupe des petits? Et ce chiffre-là, je ne l'ai pas trouvé dans les rapports. Je l'ai cherché ailleurs. Quand on considère que la force de frappe active féminine, même avec deux petits, c'est 80% des femmes, ça veut dire que, quelque part, on fait comme si il n'y avait pas de problème, comme si, et je vais être féministe bien sûr, il fallait qu'elle se débrouille. Elle se débrouille avec maman, c'est-à-dire la grand-mère du petit. Elle se débrouille avec leur environnement immédiat, puisqu'en fait, il n'y a pas assez de place.
Le mari peut-être un peu, non?
Le mari peut-être un peu, mais justement, on ne le met pas suffisamment en avant. Et je trouve que c'est un point extrêmement important. Donc au fond, il y a un problème parce que maintenant, le taux d'activité féminine, il a pris 20 points en 30 ans.
Ça, c'est une donnée sociologique et il faut l'intégrer.
Évidemment, et il faut l'intégrer.
Dans la réflexion.
Et il faut l'intégrer d'autant plus que les familles sont beaucoup plus écartelées géographiquement. Je ne parle pas d'autres problèmes, mais d'abord géographiquement. Et donc, cette question doit être traitée. Elle doit être traitée quantitativement et qualitativement. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on fait comme si s'occuper des enfants, c'était inné pour une femme. Et c'est pour cela qu'on considère tout à fait normal que les personnes qui s'occupent des petits dans les crèches soient essentiellement des femmes, puisqu'au fond, on n'a même pas besoin de leur apprendre. C'est instinctif. Or, ce n'est pas instinctif. Ça n'est pas instinctif, surtout quand on n'a pas eu quatre frères ou cinq, quatre. Moi, je suis l'aînée de six. Alors, évidemment, j'ai appris un peu vite. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, ce n'est pas instinctif, donc il faut être formé. Et il faut être formé bien. Or, on sait aujourd'hui, entre autres grâce à Cyrulnik, que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant sont absolument fondamentaux. Où est-ce qu'on apprend dans les préparations, dans le BEP Petite Enfance ou CAP Petite Enfance, les apports de Boris Cyrulnik? On l'apprend presque pas. Le troisième point qui me paraît fondamental et que tous ceux qui ont été parents savent. Dans toutes les familles, avec des petits, il y a des moments, il y a des crises. Le jour où la machine à laver ne marche plus, le jour où le père rentre beaucoup plus tard que ce qui était prévu, le jour où on n'a pas pu faire les courses qu'il fallait, on se met en colère, même contre les petits. Ça veut dire que les situations de crise, nous en avons tous vécu en famille, ça veut dire que le personnel, s'il n'est pas préparé aux situations de crise, ou si l'environnement immédiat ne le prépare pas, cela conduit à ce que l'on appelle de la maltraitance institutionnelle. Donc c'est une vraie question, un vrai problème qui doit être traité avec beaucoup de soin. Et je trouve que c'est très bien qu'on fasse des rapports, c'est très bien qu'on mette le doigt là où ça fait mal, mais je voudrais qu'on l'analyse de façon beaucoup plus profonde. Parce que les 1000 premiers jours de la vie d'un petit, c'est fondamental.
Alors ça, Sarah Tanzilli l'a rappelé dans les conclusions du rapport. Alors vous, Bruno Cyr, après avoir pris connaissance de l'existence de ce rapport, de ce qu'il dit, de ses grandes conclusions, le rapport est assez long, quelles conclusions vous en tirez?
Moi, les conclusions que je tire, c'est que, de façon générale, le service public de type régalien va à volo dans tous les sens. C'est un de plus parmi d'autres, les hôpitaux, la médecine de façon générale, surtout si on parle de répartition sur le territoire, etc., c'est une catastrophe aussi. Donc, en fait, l'État est devenu défaillant. Et l'État est devenu défaillant parce que ça n'a pas été dans ses priorités. C'est vraiment dommage parce qu'on avait en France un modèle de santé et pour la petite enfance de crèche, qui fonctionnait très bien. Et il faut quand même dire que si justement les femmes ont réussi à de plus en plus être sur des modèles où la femme travaille, y compris quand elle élève ses enfants petits, parce qu'il y a des couples symétriques de plus en plus, où l'homme et la femme jouent à peu près le même rôle dans le couple, ce qui permet à l'un et à l'autre d'avoir des carrières. Bon. Et ça, c'était permis grâce aux crèches publiques. Et évidemment, il s'est développé parallèlement une offre privée parce que le public était un peu défaillant. Mais aujourd'hui, le système prend l'eau. Prend l'eau pourquoi? Parce qu'on l'a laissé partir à volo. On s'est occupé de quantité de choses, on est surendetté, mais malheureusement, quand on regarde la justice, la santé, la petite enfance, etc., ce qu'on avait, qu'on pensait acquis, qu'on pensait être un modèle pour les autres pays en Europe, qui était la France et qui faisait ça, une partie de sa renommée, est en train de foutre le camp dans tous les sens. Donc moi je dis, les gens qui ont gouverné se sont plantés et il faut remettre à plat le système et remettre des priorités sur les éléments régaliens, notamment celui-là, parce que tout le monde sait que la natalité est un vrai problème et que si on ne fait rien pour aider les femmes à travailler ou les jeunes couples à travailler à travers justement un système de crèche qui fonctionne correctement, eh bien, la France ira très très mal et on sera obligé de faire appel de plus en plus à du travail émigré, etc., qui est une forme d'exploitation du tiers-monde. Ce n'est pas du tout le monde que je veux. Je pense qu'il faut faire du commerce avec les pays en voie de développement et pas aller chercher la main-d'œuvre comme dans les plus belles périodes de développement du 18e et du 19e siècle, quand on en a besoin en Afrique ou ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est dramatique de ne pas aider les jeunes Français, de ne pas les aider correctement. Donc moi, j'estime que le gouvernement est responsable de ça. J'espère que les prochaines échéances électorales démocratiques mettront ce problème sur la table, parce que ces rapports nous alertent. Il y avait le rapport de l'IGAS, maintenant il y a le rapport de l'Assemblée nationale. Alors je note au passage, quand même, l'invraisemblable démarche de la France insoumise. Encore une fois, ces gens-là sont complètement à l'ouest, si vous voulez. Ils commandent un rapport, le rapport ne leur plaît pas, donc à la fin, ils le réécrivent à leur façon. Ils réécrivent l'histoire. Ça s'appelle du révisionnisme, hein, mais bon, ils sont coutumiers du fait, c'est pas le premier sujet sur lequel ils le font. Mais là, la France insoumise demande un rapport. Ce rapport, il y a un consensus, il est fait par quelqu'un qui a priori de bonne volonté, qui est de renaissance, c'est pas des gens extrémistes. Et la France insoumise, ah, le rapport ne nous plaît pas, on va en écrire un autre. Mais c'est quoi les institutions de la France pour ces gens-là ?
Mathieu Sauce, vous aussi, vous avez pris connaissance de ce rapport. Vous êtes père de famille de jeunes enfants.
Alors, je suis père de famille de jeunes enfants. Mes enfants ont fréquenté la crèche. Là, maintenant, ils fréquentent l'école maternelle. Et à l'instar de... Peut-être que dans 10 ans, quand on reviendra là, on nous reparlera de l'école publique qui ne sait pas accueillir, etc. Parce qu'en réalité, gouverner, c'est choisir. Et à un moment donné, les choix qui ont été faits n'ont pas été en faveur du service public, mais en faveur du secteur privé. Et contrairement à ce que peut penser Monsieur Cyr, l'entreprise, ça a vocation à faire des profits. Et quand vous faites des profits, ben, parfois, l'encadrement du taux d'enfants, ben, vous obtenez que maintenant, c'est 6 enfants encadrés par une seule personne. Et ce n'est pas 5, comme autrefois.
Non, mais c'est le service public là, qui est mis en cause, ce n'est pas le privé. Hein.
Non, c'est les deux. Il y a 96%, il y a 93% des crèches qui ont, sur les 26% des fermetures administratives des crèches, dues donc à des choses graves, c'est 93% qui viennent du secteur privé. Donc je crois qu'on ne peut pas sans cesse taper sur le service public si on ne tape pas sur le secteur privé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au regard du nombre de demandes de places, soit en l'occurrence 200 000 demandes de places annuelles, on a un vrai déficit de notre État qui ne met plus l'argent nécessaire sur l'accueil des jeunes enfants, à l'instar de ce qui est fait sur l'accueil des adultes beaucoup plus âgés, où on avait la crise de l'EHPAD il y a ne serait-ce qu'un an sur cette radio-là, où on en parlait avec la sortie du livre. Donc à l'instar de ça, on est dans une société qui ne sait plus prendre soin à la fois des nouveaux arrivants et à la fois des arrivants partants, malheureusement, puisque c'est ainsi fait, à un moment donné, la vie touche à sa fin. Donc on est dans une société qui complètement est en train de... Et ça revient un petit peu sur le premier sujet. On est dans une société qui ne voit plus de cap et qui ne sait plus s'occuper d'elle-même. Le contrat social est remis en cause à chaque fois lorsqu'on ouvre un tiroir et qu'on regarde réellement comment ça se passe dans notre quotidien. Et ça, c'est pour moi source d'une inquiétude terrible. Et vraiment, c'est une tâche il va falloir vraiment retrousser les manches reprendre les rênes de la vie politique.
Le gouvernement a trouvé la solution pour les plus âgés. Hein. On va mettre en place la loi sur l'euthanasie, comme ça on les dégagera. Ben oui, malheureusement.
C'est encore un autre fait. Mais simplement, je me permettais juste de finir sur la crèche, parce que j'ai lu le rapport, et notamment il disait qu'il y avait une grosse difficulté pour le secteur de la crèche, que ça soit public ou privé, de trouver des personnes qui seront des encadrants de nos enfants. enfant. Je rappelle simplement
pour, en France, je rappelle, de personnel,
voilà, je rappelle simplement
c'est
parce
ça
que
qui est intéressant.
Je me suis amusé à aller chercher le taux de rémunération de ces personnes. Et en l'occurrence, je me demandais d'où venait ce manque d'attractivité, en tout cas de cet emploi. Force est de constater qu'on estime que pour s'occuper de nos enfants, hein, qui est ce qu'on a de plus cher aux yeux de toute personne qui a été parent
et
de toute la société en soi.
J'espère.
Donc on estime que pour une auxiliaire de puériculture, donc c'est pas le premier grade, hein, c'est pas le plus bas, mais on estime que ça doit toucher 1435 euros net en moyenne. Comment voulez-vous rendre attractif un métier lorsque vous le rémunérez au niveau du SMIC et vous dites que pour s'occuper de nos petits-enfants, je rejoins un petit peu. Alors, sur le côté, parce que peut-être qu'il y a un problème, enfin, il y a une constitution générationnelle un peu différente de nos familles où, à la fois en tant qu'homme et en tant que femme, on s'occupe aussi des enfants. Il y a des choses un peu différentes pour les nouveaux parents où c'est à égalité en réalité. En tout cas, je tends à ce que ça soit à égalité dans ma pensée, mais voilà. Mais donc, en réalité, je rejoins par contre vos propos qui est aussi ce manque de formation. Une auxiliaire de puéricultrice, une éducatrice d'enfants, elle va toucher alors un peu plus. Éducatrice d'enfants, c'est un bac plus 2, je crois, c'est 1645 euros net, donc en moyenne. Hein. Donc on se rend compte qu'on donne des salaires qui sont, somme toute, assez difficiles de vivre avec des salaires de 1435 euros net du SMIC, et on veut que ça soit attractif. Donc il y a quelque chose qui est antinomique, paradoxal, et je vous dis, les conditions de travail aussi, lorsque vous passez à 6 enfants à encadrer au lieu de 5, eh ben, vous créez aussi des conditions plus difficiles, et lorsque vous avez en plus, suite à ça, c'est un métier qui est quand même beaucoup plus difficile lorsque vous avancez dans votre âge, parce qu'il faut se baisser pour s'occuper des enfants, parce qu'il faut être là, ça nécessite aussi une mobilité un peu plus différente et qui parfois amène à des maladies dues à ça ou un stress de travail ou peu importe. Quand vous êtes en arrêt maladie, vous rajoutez ça, les arrêts maladie, et vous comprenez que la difficulté pour des équipes d'encadrer des enfants. Donc soit on prend la lourde tâche de s'occuper réellement à la fois de la personne humaine, de la petite enfance à l'âge avancé, soit on renonce à ce qui fait corps dans notre société, et si on met fin à notre contrat social, un petit peu tel Rousseau le déterminait, on a une société qui est au bord de l'explosion, et ça m'étonne pas que les extrêmes se nourrissent de ça, et ça rejoint un peu le premier débat. J'ai peur quant à l'avenir. Je sais que par contre, en tant que républicain, en tant que amoureux du vivre ensemble, j'espère qu'on arrivera à se retrousser les manches et à trouver les solutions.
Alors bon, il faut dire que parmi les pistes envisagées par Sarah Tanzilli, donc la rapporteure du projet, là, pour améliorer la qualité de l'accueil des enfants dans les crèches, vous avez donné un chiffre. Là, aujourd'hui, il y a un adulte pour 6 enfants. Avant, c'était 5. Elle voudrait revenir à 5 d'ici 2027. Hein, et puis aussi permettre donc aux professionnels de mieux faire leur travail et attirer des vocations. Alors William Martinet lui a dit, ça c'est un député France Insoumise qui était membre de la commission, lui il a dit ce sont de belles promesses sans moyens pour augmenter les salaires et qui ne verront donc jamais le jour. Bon, voilà où on en est aujourd'hui. Il est certain que si on ne rend pas ce métier plus attractif sur le plan salarial, je pense que ça sera difficile de recruter. Et avec les chiffres que vous avez donnés, on comprend pourquoi. Alors, on va garder les dernières minutes de cette émission, puisqu'il en reste 3 ou 4, pour vos coups de cœur et coups de gueule du moment. On va commencer avec Bruno Cyr.
Moi, en ce moment, je suis triste depuis quelques semaines déjà. Ce n'est pas un coup de gueule. Sur le projet de loi sur qu'on appelle la fin de vie, c'est une tromperie, sur l'euthanasie et le suicide assisté. J'entends des discours qui sont absolument fallacieux. On nous parle de mourir dignement comme si la dignité c'était de se suicider. Pour moi, la dignité c'est de faire face, c'est pas de se suicider, ou pire, de demander à quelqu'un de le faire à votre place. Donc il y a tout un discours ambiant catastrophique. Et malheureusement, le projet de loi qui est en train de sortir de l'Assemblée nationale, c'est pire que toutes les dérives qu'on a pu constater en Belgique et au Canada. où ces lois sont déjà votées depuis un certain nombre d'années et où tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une dérive. Eh bien, en France, on saute le pas allègrement et on est en train d'institutionnaliser l'euthanasie. Moi, ça me laisse effondrer.
Juste pour éviter, on va pas faire le débat, mais ça mériterait un débat.
Mais il y aura un débat.
Je suis pas d'accord.
On va attendre que la discussion sur la loi avance, mais il y aura un débat. Marie-Christine Monnoyer, coup de cœur, coup de gueule.
Moi, j'ai été très impressionnée par la question de la recherche des stages des jeunes qui sont en seconde professionnelle, oui, et auxquels on a demandé de trouver un stage alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis évidemment très favorable aux stages. Mais ce que je trouve et ce qui me met en colère, c'est qu'on lance une idée, on fait comme si elle était facile à réaliser, et en fait, on lance les gens dans un truc impossible. L'histoire de trouver un stage en classe de seconde, etc., c'est un truc impossible. Or, ça fait des années et des années et des années qu'on dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation de la classe de seconde où les enfants sont dehors à la fin du mois de mai ?» Ça fait tous les gens qui ont eu des enfants en classe de seconde se sont toujours demandé ce qu'ils allaient bien vouloir faire de leur gamin pendant le mois de juin. Sachant qu'il n'y a rien qui puisse être, pas de sport, pas de machin. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que maman ou papa s'en occupe.
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'entends très souvent et c'est une vraie question. Mathieu Sauce.
Oui, moi ce qui m'a mis hors de moi, mais c'est pas vieux, hein, ça date de hier soir, c'est les propos tenus par Moscovici sur la Cour des comptes qui envisageait, et j'espère que ça n'aura pas lieu, et je trouve ça complètement aberrant de laisser fuiter de ce genre de choses à 10 jours d'un scrutin national. Qu'il n'y aurait pas d'indemnisation l'indemnisation se mettra en place pour les 8 jours de travail, pour les 8 jours d'arrêt de travail. Je trouve ça complètement aberrant de sanctionner les malades, parce que 8 jours d'arrêt de travail, en l'occurrence, c'est le médecin qui met les 8 jours, et il n'y a pas de bluff en général, et c'est quelque chose qui me paraît complètement scandaleux.
D'ailleurs, ça méritera aussi un débat, je pense.
Si ça arrive au bout.
La question que vous venez de soulever, oui, tout à fait.
Gageons que ça soit juste une idée lancée en l'air.
Ça a été lancé tout de même. Voilà, 150. 55e mêlée de l'info est terminée. Merci à vous trois d'y avoir participé. Merci à Coraline Cabebrac qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible, téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Tous mes remerciements enfin à nos fidèles auditeurs et à ceux qui découvraient cette émission aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. Très bonne fin de semaine. Excellent week-end.